Bien, eh bien, bonsoir donc à chacune et à chacun pour cette soirée. Alors on a le grand privilège d'avoir Valère Novarina à cette soirée. Et c'est vrai que quand j'ai dit depuis quelque temps qu'on vous recevrait, les gens font des O et des A, sont vraiment... Non, c'est vrai, franchement. Et effectivement, c'est un privilège tout à fait exceptionnel dont nous mesurons tout à fait l'importance. Alors ce texte, pour en finir avec le sacré, que nous fait découvrir Denis Guénoun, franchement j'ai été épaté, c'est digne, j'allais dire d'un grand théologien, mais je ne veux pas vous récupérer de force. Si je dis ça, c'est que j'ai regardé dans les dictionnaires de théologie les plus réputés, et ils disent qu'en gros, le sacré et la sainteté, c'est la même chose. Ce qui est en fait une erreur absolument majeure, et donc je trouve que c'est vraiment une excellente, très fine, très féconde distinction que vous faites entre le sacré et le saint, la sainteté. Et c'est libérant pour la personne, c'est dynamisant, ça autorise aussi la pensée, mais la spiritualité, ça autorise une mise en mouvement de soi-même, dans le rapport avec l'autre, mais aussi c'est une formidable vaccin contre l'intégrisme, à mon avis, pour encourager vraiment à aller vers l'autre. Ça permet à juste titre d'être anticlérical, d'être iconoclaste, tout en, dans votre texte, une reconnaissance du spirituel, de la Bible comme étant vraiment... chargé de sens, chargé d'appel, et puis aussi, je trouve un texte très chargé de spiritualité. Et effectivement, j'ai eu la chance d'assister donc à une pièce absolument prodigieuse, Le Vivier des Noms, que vous avez faite pour Avignon, je crois, il y a quelques années, qui a été rejouée il y a quelques semaines à Paris, dans la banlieue parisienne. Et au milieu de ce texte, qui est quand même un texte difficile, il y a une sorte de petit diamant sur la prière, absolument incroyable, qui là aussi me fait dire que vous êtes et un grand théologien et un spirituel, mais sans récupération aucune, bien sûr. Donc, merci beaucoup.
Oui, un mot pour, d'une part, évidemment, pour remercier Valère de... Ce double geste d'amitié qu'il nous fait ce soir, j'allais dire en quoi double, et aussi un mot pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas forcément, mais très brièvement. Valère Novarina est donc a tracé un des chemins les plus marquants et les plus originaux de la littérature contemporaine, de la littérature française contemporaine. Il continue de le faire. Son œuvre est extrêmement importante, très abondante. Et de beaucoup d'échos et de beaucoup de retentissements. Et cette œuvre, si vous voulez, est composée de plusieurs massifs. Les livres sont presque tous maintenant publiés aux éditions POL, quoi qu'il y en ait ici et là chez d'autres éditeurs, que ce soit des livres de poésie, des livres d'entretien. Il y a plusieurs massifs dans l'œuvre de Valère, mais je voudrais attirer votre attention sur deux d'entre eux. D'abord, il y a évidemment un groupe de textes, de livres, d'écrits qui sont des livres pour le théâtre, des livres de théâtre. Mais la manière par laquelle Valère sollicite le théâtre, la manière qu'il a d'écrire pour le théâtre est très paradoxale. Ça fait penser parfois un peu, non pas du tout dans la forme, mais bon, le rapport que je vais essayer de dire d'un mot à Claudel. Vous savez, Claudel, quand Claudel a présenté sa première pièce au théâtre de l'Odéon, la réaction a été « ce n'est pas du théâtre ». C'est bien, mais ce n'est pas du théâtre. Or, on pourrait dire ça de toute l'œuvre de Novarina. Il est absolument furieux de m'entendre dire ça, mais ce n'est pas grave. Notre amitié est faite de ce genre. C'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression à la lecture que Novarina adresse au théâtre une proposition extraordinairement provocante. Mais ce qui est très frappant pour les gens qui sont habitués des salles de théâtre, c'est que les œuvres de Novarina, malgré leurs difficultés apparentes, leur extrême complexité, réunissent des publics très nombreux et extrêmement chaleureux dans leur grande diversité. Alors, les œuvres de Novarina ont été jouées, que ce soit sous sa direction ou sous d'autres, dans les plus grandes scènes de France et d'ailleurs, à la cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon, à la Comédie Française et dans bien d'autres lieux. Mais je me rappelle, en plus d'une circonstance, d'avoir vu des auditoires, et encore tout récemment à Malakoff, pour le Vivier des Noms, avec des publics très nombreux qui ne sont pas du tout des publics acquis d'avance et qui sont vraiment des auditeurs et des observateurs et des regardeurs extraordinairement captés par cette écriture. C'est un mystère de l'écriture de Novarina. Bien sûr que je ne crois pas avoir percé ce mystère et je ne dois pas être absolument le seul. Et puis, il y a un autre massif qui est ce qu'on pourrait appeler, mais là encore avec beaucoup de paradoxes, un ensemble de textes théoriques ou d'essais ou d'écrits de réflexion. Je crois que Valère accepte, ou en tout cas par moments, utilise cette distinction entre des écrits qui seraient plutôt directement pour la scène et d'autres plutôt des écrits théoriques. Alors ce rapport à la théorie est lui-même paradoxal, parce que l'écriture de Valère est dans son intensité littéraire aussi inconfortable pour la théorie au sens habituel du mot qu'elle l'est au départ apparemment pour la scène. Je dois dire que de mon côté, les œuvres théoriques de Valère sont parmi les choses qui me, enfin pour ma part, à titre purement personnel, qui me mobilisent et qui me mettent en mouvement le plus fortement ces dernières années. Je suis extrêmement gré de ce qu'il apporte, de ce qu'il, qui n'est pas toujours facile à entendre, mais ce qu'il apporte dans le paysage intellectuel dans lequel nous sommes. Et en effet, comme Marc vient de le dire, dans ces propositions, qui sont parfois des propositions théoriques sur le théâtre, parfois des propositions théoriques en général, ou philosophiques en général, il y a une insistance des motifs qu'on peut appeler, je crois, littéralement théologiques, qui est très frappante. Alors là encore, Valère ne peut pas être rangé ni dans une catégorie théologique, ni je crois d'ailleurs dans une catégorie confessionnelle bien claire. Peut-être tu nous diras tout à l'heure un peu plus de ta situation par rapport à tel ou tel... Tu m'avais dit que tu n'es pas peut-être indifférent en fait, de dire quelques mots sur ton rapport à la réforme. On entendra ici avec beaucoup d'intérêt. Mais c'est vrai que tu n'es pas classable, ni dans une religion au sens classique du mot, ni dans une appartenance, dans une orientation. Mais néanmoins, comme ça a été le cas pour Marc ces derniers temps, et comme c'est le cas pour moi, sans cesse depuis quelques temps aussi, cette pensée nous met en mouvement. Alors voilà, merci beaucoup à toi et tu nous fais aujourd'hui un double cadeau. Le premier était d'être là, ce qui est quand même extrêmement gentil de ta part. Et le deuxième, ça c'est tout récent, c'est que tu vas en plus nous offrir le fait que c'est toi qui vas lire le texte que nous avons fait circuler. Je suis particulièrement heureux de ça et je t'en remercie infiniment. Les éditions POL ont accepté que nous, très gentiment, que nous puissions diffuser ce texte préalablement, comme beaucoup d'entre vous l'avaient demandé. Et c'est entre autres pour répondre à votre demande que nous avons choisi ce dispositif pour la soirée de ce soir. Et donc, ce texte que vous avez lu, je me permets de dire simplement, vous le remarquerez à l'audition, qu'il y a eu quelques petites coquilles, évidemment involontaires, l'écriture, dans la transcription qui a été faite là, mais vous les repérerez aisément à la lecture que Valère va nous faire. Merci beaucoup, Valère, de ta présence. Et voilà, commençons maintenant avec toi cette séance.
Merci. Donc le livre s'appelle « L'envers de l'esprit ». Ce texte s'appelle « Perdition 3.14 ». Et il y a différents groupes de paragraphes. Le premier s'appelle « Pour en finir avec le sacré ». Peut-être je vous dirai tout à l'heure l'histoire de ces titres. Au sacré qui enclos, trace un périmètre, délimite et renferme, fascine et immobilise et tient ce que l'on appelle Dieu au secret, en refuse l'accès aux insoumis, aux athées, aux impurs, le réserve aux initiés, aux fidèles, aux croyants, au sacré s'oppose le saint qui s'ouvre devant nous et s'ouvre en nous, en tout lieu, et en chacun qui s'offre, vient se donner, qui invite, demande d'approcher. Le sacré enferme, défend d'entrer et interdit. La sainteté ouvre les mains et n'est propriété de personne. Elle est le contraire d'une clôture. Elle offre. Où y a-t-il du sacré ? Dans les sanctuaires murés, dans les livres idolâtrés qui s'annonnent sans comprendre, dans les cultes marmuques, scutriques, onfroïdes, bogomiles et cathares, dans les temples des Baals et des Astartés, et dans la tête des suicidés du temple solaire, et chez tous les sectaires inventeurs de rituels et bâtisseurs de temples où l'on s'enferme entre moi d'une même espèce. Le sacré interdit le passage. Le saint nous invite à franchir le pas. Il nous demande de toucher, nous invite à être touchés. Le sacré trace sa clôture et nous laisse interdits. Il coupe le souffle, empêche de franchir, rend muet. Il nous emprisonne devant les quatre murs où Dieu est clos. Alors que le saint est spirituel, c'est-à-dire qu'il respire et qu'il souffle librement où il veut. Dans la Bible, le mot « sacré » n'est pas prononcé. C'est le mot « saint » qui se trouve à chaque page. Tout demande à s'ouvrir, à se livrer dans la religion des livres pluriels que l'on peut citer, traduire en toute langue, commenter à plusieurs, lire ensemble, dérouler devant tous. Tout s'offre dans la religion de Davar Elohim, de la parole de Dieu, du livre ouvert et de la parole offerte. Tout nous invite à un échange avec Dieu par la parole, par le silence, par la respiration. Rien de fermé non plus dans la liturgie, qui est action visible pour le peuple, acte pour lui, don public, drame ouvert, le pain du livre s'ouvrant et s'offrant. Pas de secret dans le rituel, et rien d'occulte. Prêtres, pasteurs, rabbins sont des bergers et non pas des initiés. Dieu est à ciel ouvert. Rien n'est caché sinon par les limites de l'entendement humain. Le livre devant nous déroulé s'offre entier. Les mains le comprennent, l'entendement l'écoute, la bouche le parle et même le mange. Dans chacune de leurs pages, les livres de la Bible disent la présence de Dieu et son don perpétuel en nous comme une source. La relation est d'amour, est presque tactile. Dieu n'est pas, il s'incarne, il se communique, il s'offre à l'homme, il se donne en souffle, en chair, en pain et en parole. Le Dieu sacré s'enferme, se tait, enlève la parole, interdit, paralyse. Au lieu que le Dieu saint est en nous et nous touche. Il vient naître ici, mourir comme nous, nous emporter dans son drame, nous parler, nous inviter à traverser la mort avec lui. Et il y a quelque chose de tactile dans ce nom même de Messie. Il y a dans ce Dieu touchant quelque chose de touché, puisque le nom de Messie, en grec comme en hébreu, Christos, Mashiach veut dire oint, frotter, toucher d'huile. Le sacré barre la route, le Messie, le Christ, au contraire, ouvre la voie, va au dehors et sans défense appelle à lui. Il se communique et il se communie. Non seulement Dieu en lui s'incarne, mais il vient s'incorporer à nous. La parole se mange. Mais Dieu le Père n'est-il pas lui aussi au plus profond et au plus secret de notre intérieur ? Il faut relire le très extraordinaire psaume 139. Louis II et la Bible du rabbinat traduisent ainsi la première ligne : « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». Dans l'hébreu d'origine, comme dans le grec de la Septante, le verbe « connaître » ici utilisé est le même qu'en Genèse 4.1, où il désignait la connaissance charnelle qu'Adam et Ève eurent l'un de l'autre. Deuxième partie qui s'appelle « Libre pensée ». Un volume s'ouvre. Toute la Bible est un renversement d'images fixes, une défaite d'idées toutes faites, un déploiement de la surface, un franchissement de l'enclos. Sans cesse, le livre renverse, abat le veau d'or, se déploie et ouvre. Ouvre la mer Rouge, le tombeau, le gué du Yabok, les anciens interdits. Le livre passe et dépasse toute vieille frontière et va jusqu'à nous inviter à nous affranchir du mur absolu, notre plus ancien ennemi, la mort. Va, tout est dans la Bible remise en mouvement. Invitation à la marche, exode, histoire, départ, processus, migration. Le divin est sans arrêt, jamais fixe, jamais immobilisé, jamais figé. Il est au détour du chemin, rencontré, transporté, commenté, sans cesse déplacé, en métamorphose et en transfiguration, en incarnation et en mutation. La notion de sacré, qui pose un point à ne pas franchir, trace une frontière et dresse un mur d'altérité radicale entre Dieu et nous, est contraire au génie renversant de ce livre où le divin nous approche, nous surprend et se rencontre en tout lieu, autour d'un puits, à un carrefour, au coin d'une fontaine, dans un buisson. À chaque verset, la Bible dit « Lève-toi et marche ». Dieu n'est ni vu ni connu. Il ne peut être vu, mais nous atteint par dedans. Et c'est par l'intérieur que nous allons à sa rencontre. Il se donne, il s'offre, et nous le touchons par le lassement et le dénouement, par l'enlacement respiratoire de la parole et de la prière. Il y a une phrase aux toutes premières pages de la Genèse, une phrase qui n'existe que dans la Bible, qui en est le cœur. C'est à partir d'elle seule, s'il n'en restait qu'une, que l'on pourrait reconstituer le livre tout entier. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. L'énoncé central, fondamental, crucial, est dans ces mots qui ouvrent libre dialogue, conversation, communication, alliance nouvelle entre le divin et l'humain. La Bible, qui rompt avec le tragique des mythologies et des religions à mystère, ouvre l'amitié entre Dieu et les hommes, l'échange personnel entre lui et nous. C'est un livre libérateur de la peur, qui nous demande d'emblée de renoncer aux effrois troubles du sacré. Dieu n'est pas de l'autre côté d'un mur adverse, mais mêlé au visage humain, en face à face. Invisible, il nous est ressemblant. Nul n'a jamais vu Dieu qui habite une lumière inaccessible. Nous ne pouvons le voir, mais nous sommes face à lui, en miroir. Il nous a fait à son image invisible, dans un miroir ardent d'optique amoureuse. Dieu est en nous notre don, notre donné, le don de notre souffle que nous lui offrons, notre vie entre ses mains. Dieu est notre offrande. C'est à lui que nous rendons souffle. Par la prière, nous lui rendons le souffle qu'il nous a donné. Nous nous échangeons à lui par enlacement respiré. Nous le touchons par dedans, par le souffle qui circule entre lui et nous. Tout dans la Bible est franchissement, passage, annonce, approche, renversement du proche et du lointain, élection des simples, des nomades et des bergers. Inversion du haut et du bas, vide de la matière, physique du verbe, drame de la pensée, saisie et saisissement par le sensible des choses abstraites, perception et non pas vue de l'incompréhensible. Tout dans la Bible est matérialisme spirituel, spiritualisme dialectique, touché de Dieu. Le monothéisme biblique porte un nom qui lui va mal. La Bible n'est pas une stèle d'inscription, mais un système respiratoire. Non une bibliothèque, mais une volière de lettres respirées, en dialogue, en écho, en symphonie et en contradiction, une roue d'essence, liant et tissant les pages plurielles, en mouvement et en renversement. Il n'y a aucune pierre lithique ni dieu fixe dedans la Bible, aucune effigie de bois ni stèle, aucun théolithe à adorer. Tout y est tournoiement et pensé par le drame. Tout y est loin des dieux. Tout y est contraire à l'esprit de la tragédie. Le fatum, le destin, est on ne peut plus contraire au génie dramatique dénouant et délivreur de la Bible. Dans la tragédie, nous sommes figés, fixés par les dieux dans un affrontement sans regard. Au lieu que l'enseignement de la Bible nous fait respirer, nous libère par le drame, nous dénoue. Le lecteur de la Bible jamais n'éprouve le grand frisson du sacré. Il n'est pas tenu à l'écart, mais il est invité sans cesse à s'approcher, à interpréter, comparer les textes et les mettre en relation, en retrouver l'épaisseur, en épanouir les sens, en respirer le volume. C'est en s'échangeant avec le livre et par croisée mentale, multiplication psychique, nage dans la respiration des pages que se fait la lecture qui est une mêlée de souffles. Le livre s'ouvre ensemble, se lit à plusieurs, se commente dans l'inquiétude, se compare en 4 langues, en 70 langues, en 2097 langues. Il se déploiera en arborescence d'écho. La Bible palpite. La Bible ne demande pas de réciter le texte sacré, mais d'ouvrir grand le livre saint, le livre qui nous ouvre. Parole de Dieu entièrement écrite par des hommes faillibles et en langue fautive, comme tout ce qui sort de la bouche humaine. Elle est ouverte aux interprétations. C'est le livre des passages, un livre à traduire dans toutes les langues de la terre, à n'idolâtrer jamais, à ouvrir pour combattre avec l'ange, pour perdre et retrouver notre nom comme Jacob devenant Israël. Ici, une citation de Rupert de Deutz. Tout homme qui s'adonne à l'étude des saintes écritures, s'efforçant de comprendre le sens du Verbe de Dieu, à l'instar de Jacob, lutte avec Dieu. Autre partie qui s'appelle « Deux traits dans l'espace ». Regardons le renversement de la croix, le paradoxe et l'équilibre de la croix. La croix paradoxale concentre et dilate, marque l'espace en un seul point et l'ouvre tout entier. Elle signe l'espace et le désigne partout. Elle ouvre le drame de la naissance de l'univers. Elle embrasse les contraires, elle renverse. Elle est la dilatation d'un point. Elle est en notre esprit ce qui se souvient d'un point de perdition, de débat, de battement, de battu en retour et de dilatation. Elle est le niement et la négation du nom, point rythmique et de vie, source d'un palpitement qui renverse, surlèvement d'énergie, croix de géométrie vive, source rythmique. Dans le labyrinthe ordonné des Écritures, dans la cathédrale d'écho des versets, le chemin ne se trouve jamais plus sûrement qu'à l'aveugle, par la certitude touchée de l'amour, lorsque la croix n'est plus signe de supplice et de mort, mais signe de vie, un point qui respire tout l'espace. Croix de gloire, ici est le lieu du battement palpité de l'univers. Ici, le temps entier est à la renverse et naissant. La croix, la plus simple de toutes les figures, celle dont signent les illettrés, signature de personne. La croix, signature des illettrés, car le christianisme a été d'abord un judaïsme pour les paysans. La croix, analphabétique, de deux traits, signifie que tout l'édifice mental du langage humain se renverse et reprend souffle après s'être précipité et noyé en un point. L'esprit, par la croix renversante de la respiration, reprend souffle. Par le renversement de la croix, l'innommable, l'infini imprononçable, le sans fin que nul ne peut comprendre, l'incompréhensible que nul n'a vu, est aussi celui dont le nom est simplement tu, celui que nous pouvons nommer du nom d'amour, toi. La croix détermine dans l'espace un point d'agonie qui s'ouvre aussitôt. Elle se recueille en un point, c'est-à-dire en un non-lieu qui embrasse tout l'espace. Tout lieu meurt pour s'ouvrir aux points cardinaux. La croix respire comme le signe du drame rythmique qui libère et enserre, qui point, charpente, structure et délivre le temps tout entier. S'il y a une frontière dans le christianisme, elle est réversible et ne vient pas séparer deux territoires, mais les retourne en traversant. L'obstacle est franchi par réversibilité. S'il y a un seuil, il se passe en se retournant et mène à l'envers. Le christianisme danse, une danse d'inversion du sens et de l'envers de tous les sens. Folie, scandale, paradoxe des paradoxes. Dieu fait homme, meurt et annule la mort. C'est une religion à l'envers des religions et tête en bas. Sa gloire est d'être à terre. Un pas de plus. Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. C'est là, dans ces deux lignes d'Irénée de Lyon, ou d'une lettre de saint Paul, je ne sais plus, c'est là la voie ouverte à l'abolition du sacré, la fin annoncée de la séparation. Plus de temple qui se referme, mais un chemin s'ouvrant devant, une échelle et un passage entre ciel et terre, à gravir degré par degré, monter et descendre comme l'échelle de Jacob, descendre et monter comme l'échelle sainte de Jean Climac. Quatrième partie, et dernière, qui s'appelle Une visite au buisson ardent. Au monastère Sainte-Catherine du Sinaï, une icône nous montre Moïse enlevant ses chaussures au pied de la montagne. S'il est demandé à Moïse, devant le buisson ardent, d'enlever ses sandales, c'est pour toucher de sa peau même, pieds nus, la sainteté du sol. Dieu ne dit pas à Moïse, n'entre pas, ne passe pas, mais viens pieds nus. De même que le Christ dit, venez à moi, prenez et mangez. Et de même que le tout dernier mot de la Bible est viens. Viens, qui est un mot des amoureux. Presque à chaque page de l'Écriture, il y a l'appel, l'invitation, l'approche, l'attente, la venue, le toucher. Dieu veut nous apprivoiser. Il est dit à Moïse, déplace-toi, défais-toi, approche pieds nus. Le saint attire, demande qu'on le touche, fasse le pas, qu'on fasse le pas, avance. Dans la spiritualité, tout a lieu par contact. Main posée sur des yeux, sur une jambe, paume sur un front. Si Dieu répond à Moïse qui lui demande qui il est, dis-leur que je m'appelle Je suis. Ce n'est pas pour signifier qu'il est l'être, le grand être, l'être suprême. C'est pour prendre aussi son nom de Moïse et aussi le nom de chacun d'entre nous. Il veut porter notre nom à chacun, à nous tous. Nous sommes tous des Je suis. Avant d'être des François Ducret, Isabelle Babin, Raymond Morel-Vuillet, Louis Castel, Constantin Bobas, Denis Guénoun, Jean-Luc Mingus, Vibeke Madsen, Saïd Ouramsour, Francine Figuière, Thierry Fougoureau, Virginie Brigana. Je suis n'est pas le nom solennel de l'être, du grand être majuscule avec le plus grand de tous les E, mais aussi le plus pauvre des noms. Dieu se nomme Je suis pour porter le nom de chaque humain. « Je suis » sont deux très très humbles syllabes prononcées quotidiennement 66 fois par jour par n'importe lequel d'entre nous. Je suis en retard, je suis enrhumé, je suis fatigué, je suis ici, je suis sur le point de partir. Dieu n'est pas venu proclamer solennellement « Je suis l'être suprême surtranscendant », la majuscule des majuscules, mais « Je porte en personne ton visage en miroir. Je descends vers toi, porter le nom de chacun d'entre vous. » La scène du buisson ardent ne se comprend que dans une optique amoureuse. Le buisson où je suis qui je suis s'écrit devant Moïse et devant toi est un miroir sans fin où tu te vois sans image. Il s'ouvre une ardeur, un ardent foyer optique que rien n'éteint, une viduité d'amour et un appel de parole et de souffle que nous ne percevons que par perspective retournée, renversement intérieur de la vue, inversion de l'espace, transcendance par dedans. Dieu dit à l'homme, ce mystère est incompréhensible parce qu'il te comprend. Dieu est la quatrième personne du singulier. Dieu n'est plus dans le sanctuaire cerné de murs, mais notre plus intime vis-à-vis. Il se voit pieds nus, ne se touche que par le regard de dedans. Il se voit dans le miroir, sans image, personne dedans, personne en nous. Dans ce mot de personne, un miroir sans image nous est tendu. L'amour brûle sans se consumer. Dieu est le miroir où tu te vois sans toi. Je suis qui je suis, ou je serai qui je serai, est le Verbe éternel, une ardeur qui ne se consume pas. Le Messie, c'est la parole. Dans la respiration de la prière, tu lui rends le souffle qu'il t'a donné. Il te donne son souffle que tu lui offres. Tu ne le connais que par cet échange de souffle et ce croisement de paroles adressées. Tu ne sais de lui que la trace de son passage par l'échange du souffle. Tu ne connais Dieu, animal de ta chair, esprit de ton souffle, que par passage, jamais par vue, ni par nom, ni par concept. Il est ton vis-à-vis invisible. Tu le connais en aveugle. Il est âme de ta chair, esprit de ton souffle. Le buisson est un ardent miroir, sans image et sans fin. L'esprit délivre, l'esprit respire, un déliage, un déliment s'ouvre par le feu qui ne consume pas. Rachi dit quelque chose de très beau sur cette scène du buisson dans l'Exode. Un ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Au milieu du buisson, et non pas un autre arbre plus élevé, conformément au psaume 1, je suis avec lui dans la détresse, dans l'humiliation. Dieu a choisi le buisson, le moins élevé de tous les arbres, comme lieu de sa révélation, montrant par là qu'il était avec les Hébreux dans leur état d'humiliation. Est appelé Dieu celui qu'on appelle. Est appelé Dieu ce videment venant faire et refaire, façonner et modeler autrement, frapper à vie et renouveler la figure humaine. Il renverse notre idole. C'est pourquoi, comme Jacob, nous avons à lutter avec lui pour changer de nom. Il y a dedans nous une personne, et il y a dedans nous personne. Personne est un des mots de notre langue qui s'ouvre et s'offre vide. Tout le contraire d'individu, qui est cadastral, matériel et propriétaire, enclos d'homme, sujet répertorié, Adam captif. L'homme est plus ouvert que ça. Allez annoncer partout que l'homme n'a pas encore été capturé. L'homme est plus ouvert que le mot qu'il désigne. Ouvert comme les toits des cabanes de Soukhot. S'il est quelque chose finalement de sacré en l'homme, d'intouchable, c'est bien ce vide, cette place vide, ce creux immatériel, ce champ d'évidement qui est un champ d'attraction. S'il est quelque chose de sacré, c'est bien personne. Ce mot vide, chargé de toute l'énergie de la réversibilité et du renversement, ce champ ouvert, offert à la physique amoureuse des attractions. Dieu, vide. Ce mot vide, formé des mêmes lettres que le mot Dieu et qui en est l'anagramme, si l'on veut bien, comme les latins, ne plus distinguer le U du V.
Alors, parmi vos demandes pour les séances précédentes, je fais une petite parenthèse, Valère, qui ne te concerne qu'indirectement, mais qui devrait te concerner dans les minutes qui viennent, il y avait aussi l'expression d'une sorte d'insatisfaction par rapport au déroulement des discussions. Dans nos précédentes séances, parfois, plus d'un ou plus d'une parmi vous trouvait que la parole circulait de façon un tout petit peu captive entre... des personnes qui semblaient avoir un jeu de référence partagé et qui n'étaient pas suffisamment partagées avec les autres. Alors, c'est l'occasion ce soir de rompre ce qui n'est pas une fatalité, mais cet usage, puisque nous avons le temps d'adresser à Valère les observations, les remarques, les questions, bien sûr, les interrogations qu'aura suscité la fréquentation préalable de ce texte et l'écoute, la vision de la lecture que tu viens de nous en faire. C'est beau d'ailleurs parce qu'il y a, vous savez, il y a une énigme, c'est entre nous, hein. Il y a une énigme dans les lectures de Valère. Moi, je vois Valère lire, je crois que la première fois, c'était à Rennes, il y a une bonne vingtaine d'années, c'est que Valère lit toujours comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je n'ai pas très envie de te le demander, je ne sais pas si tu me répondrais, peut-être pas, et c'est... C'est une espèce de principe, de glissement sur la page qui est très, très étrange et qui introduit une espèce de cérémonie dont tous les usagers, les gens qui ont eu à entendre et à voir Valère lire, ont pu s'étonner. C'était comme ça aussi ce soir. J'étais très heureux que tu nous offres ça aussi.
Je conseille ça aux astigmates.
Ah bon ? Tu as été astigmate assez tôt alors, non ?
Oui. Non, je voulais dire peut-être juste deux mots de ce que je pensais tout à l'heure. Oui, c'est un texte qui a commencé il y a longtemps, qui a eu plusieurs formes, etc. Mais surtout, j'ai remarqué très tôt que le mot sacré, c'était un mot des athées. C'était les athées qui disaient que c'était sacré. Voilà. Et puis l'autre chose, j'ai appelé ce texte aussi à un moment. Oui, je l'ai appelé pour en finir avec le sacré, évidemment, parce qu'il y avait un peu de provocation, et c'est un écho de célèbre texte d'Artaud, pour en finir avec le jugement de Dieu. Et puis pour en finir avec le sacré, on se demande ce que ça annonce, et ça, je sais pas, voilà, il y a un effet de surprise. Et puis, il s'est aussi appelé Perdition 3.14, parce que j'avais une sorte d'installation avec ce texte, un tableau, une peinture, un je suis en néon, enfin bon, dans un musée. Je l'ai appelé Perdition parce que la toile, qui était une toile très. Mettait dans un état de malaise, que j'avais pas, elle s'appelait Perdition, parce que c'était vraiment la perdition. Quant aux histoires de 3.14, cette obsession de 3.14, ça remonte à l'enfance ou l'adolescence, où j'ai remarqué, évidemment, c'est très curieux que le passage principal de la Bible, ce soit 3.14, comme la lettre Pi. Alors, un jour, de façon un peu enfantine ou. Un peu kabbalistique, peut-être, j'ai feuilleté une Bible, je me dis, puisque l'essentiel de l'Ancien Testament est en 3.14, je vais pointer quelque chose dans le Nouveau Testament en 3.14, et ça va être le centre. Alors j'ai pris une Bible, et puis j'ai visé un peu le Nouveau Testament, j'ai pas choisi le livre, en fait, c'est une épître de Jean. Alors j'ai 3.14, mais c'est curieux, tout d'un coup, oui, 3.14, celui qui n'aime pas demeure dans la mort, qui est tout à fait extraordinaire. Parce que qui peut dire, monsieur, c'est faux. Qui peut dire, c'est une phrase extraordinaire. Voilà, l'essentiel, je le sum quisum, et puis celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et à un moment, je m'intéressais beaucoup au livre de Daniel, pour différentes raisons. À un moment, je tombe sur ce passage de Daniel, « Il sauve, il libère ». C'est très beau, « Il sauve, il libère ». Puis c'est deux verbes, « Il sauve, il libère ». Je dis, ça doit être Daniel 3.14. Je vais regarder, non, ce n'était pas Daniel 3.14, mais c'était Daniel 6.28. Vous pouvez vérifier.
Valère a fait référence au passage très discrètement à une grande partie de son travail qui est un travail pictural, parce que Valère en tant qu'artiste de plein exercice hein, d'une part, et aussi parfois pour la scène, a une œuvre picturale importante qui est, je crois, une des choses que tu traces, c'est le cas de le dire, depuis très très longtemps, depuis toujours. Il y aura bientôt d'ailleurs, je crois, si je ne dis pas de bêtises, une grande exposition au musée de l'abbaye de Sainte-Croix au Sable d'Olonne qui était consacré
hein, oui, c'est ça, elle existe,
elle est déjà ouverte ouais. Voilà, qui est consacré entre autres à ton œuvre picturale. Alors à vous.
Oui, monsieur,
vous avez la question dont on parlait tout à l'heure. Le saint nous invite à franchir le pas, il est ouvert. Or nous avons malheureusement, des expressions telles que le peuple saint, la terre sainte, où l'ouverture n'apparaît pas évidente. Ça peut être plutôt même une fermeture par certains côtés. Alors, je pense qu'il y a peut-être un sens à trouver à cette différence, ou peut-être que je me trompe dans l'interprétation du terme saint, dans terre sainte, et sur le plan pratique, sur le plan quotidien, ça semble quand même poser des problèmes de fermeture. De clôture totale.
Et si c'était la terre sacrée, ce serait bien pire quand même. La terre sainte, elle est douce, elle est sainte. C'est...
Oui, mais elle est appelée pas terre sacrée, elle est appelée terre sainte.
Elle est Eretz Israël. Puis il faudrait regarder, je pense qu'il faudrait regarder dans la Bible comme le mot saint en hébreu, en grec de la Septante, etc.
Non, mais vous avez parfaitement raison, parce que saint,
c'est pas consacré à Dieu.
Saint, ça veut dire mis à part pour un service divin. Et donc effectivement,
il y a des barrières tout de suite.
Ça envoie normalement.
Oui.
Et alors c'est vrai que
c'est plutôt un service qu'un.
Mais c'est une mise à part pour un service, et c'est pour ça que le peuple saint, finalement, est plutôt, ou même la Terre Sainte, théoriquement, ensuite, nous faisons comme nous pouvons, mais il y a une véritable vocation, donc d'être peuple prêtre, d'être lumière des nations, et puis que Israël, au lieu d'être un lieu de conflit terrible, eh bien, soit justement une lumière de bonne entente, une lumière de témoignage sur ce Dieu dont on a du mal, effectivement. Et là, je suis très admiratif pour ce absolument texte incroyable qui complexifie la personne de Dieu, qui la rend vivante, j'allais dire, extrêmement vivifiante même, que vous proposez ici. Mais donc, moi, je suis hyper d'accord. Saint, c'est vraiment quelque chose qui met en route, qui met en mouvement. C'est pas du tout une fermeture, c'est une ouverture, c'est pas du bleu tout, hein. Un diplôme de... C'est pas une légion d'honneur donnée à quelques personnes qui seraient au-dessus du lot, c'est vraiment quelque chose qui envoie tous et toutes en route. Et cette distinction sacrée qui est comme une fermeture et saint comme un envoi, un souffle, c'est, à mon avis, fondamental et lumineux, et vraiment ça, c'est tout à fait, je crois...
Je suis parfaitement d'accord sur l'ensemble. Il y a deux expressions qui ne paraissent pas tout à fait répondre à la définition.
Mais parce que les hommes ont sacralisé ça.
Parce que peut-être les hommes en ont fait ce qu'ils en ont fait, mais ça peut entraîner quand même des...
Abraham Benjo.
Oui, moi je crois que la question de monsieur est tout à fait pertinente, et je crois qu'un des passages les plus forts dans Emmanuel Lévinas, c'est ceux qui dit tout son dégoût et je veux dire sa haine contre ceux qui ont sacralisé la terre. La terre est dite sainte, la caloche dans le texte, mais il faut pas la sacraliser. C'est une forme, dit-il, une des formes les plus pernicieuses d'idolâtrie. Vous en tirez les conséquences politiques que vous voudrez par rapport à une certaine actualité, mais effectivement, la terre d'Israël est sainte, elle n'est pas sacrée. Le fait que ces malentendus soient possibles doit être en effet dénoncé. Vous avez parfaitement raison de pointer ces expressions. sont trop souvent mal interprétées. Ce qui m'amène juste à vous poser une question très, très rapide, qui est justement le rapport de votre texte, de votre pensée avec Lévinas, puisque encore, c'est dans Lévinas qu'on trouve depuis tôt cette distinction, même cette contradiction frontale, brutale, entre le saint et le sacré. Est-ce que vous avez eu un dialogue avec lui?
Non, je connais ce texte, je l'ai connu après, où j'avais un autre chemin, je ne sais plus comment.
Il y a un livre de Lévinas bien connu dans les lectures talmudiques qui s'appelle « Du sacré au saint ». Alors évidemment, moi je suis allé voir souvent, et en particulier depuis que je m'intéresse à ces textes de Valère, parce qu'il y en a un autre qui s'appelle « Pour en finir avec le sacré ». Il n'y a pas que celui-ci. Dans l'œuvre de Valère, les titres, comme d'ailleurs les motifs au sens musical du mot, se reprennent, se répondent, se mettent en écho. Et il y a dans un volume qui s'appelle « La quatrième personne du singulier », vous avez entendu cette formule, il y a dans un autre texte qui s'appelle « Pour en finir avec le sacré » et qui est une lettre à Eniko Sepsi, et qui commence par la même thématique et puis qui après se développe dans une autre direction qui concerne plutôt le théâtre. Alors, lorsque j'ai lu ces textes, j'ai découvert ces textes, en partie d'ailleurs grâce à l'influence terriblement bénéfique d'un de nos amis communs qui s'appelle Olivier Dubouclet, jeune philosophe qui a fait beaucoup de choses et entre autres au moins deux livres avec Valère, dans un échange avec Valère, un livre magnifique qui s'appelle « Paysages parlés », qui est une série d'entretiens entre Valère et Olivier Dubouclet. Sous l'influence d'Olivier Dubouclet, j'avais évidemment commencé à fréquenter ces textes et en tombant sur ce texte, je me suis dit « Bon, alors Lévinas ». Alors, je suis allé voir très attentivement les textes de Lévinas et en particulier ce livre qui s'appelle « Du sacré au saint ». Parce qu'évidemment, ça paraît programmatique, on se dit « Ben voilà, il y a une cause ». Et je dois dire que l'ayant lu et relu, malgré ce titre qui a une proclamation, la thématique est en quelque sorte, je dirais, latente. Alors évidemment, la question de la sacralisation figure là et ailleurs, mais elle n'est pas, comment dire, développée comme le fait Valère, avec ce côté à la fois catégorique et puis cette espèce d'inventivité, de productivité. Moi, j'adore Lévinas, beaucoup le savent ici, on y a consacré des séances. Mais sur cette thématique-là, je l'ai relu encore récemment, malgré le titre et malgré un texte qui est à peu près consacré à ça, la chose est comme lancée, mais de façon un peu nucléique. Valère cite Lévinas, à au moins une reprise que j'ai là, mais voilà, je ne sais pas s'il y a eu un écho ou il y a eu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la proposition qui est là, chez Valère, elle est extrêmement développée.
Dans notre langage courant, le sacré est un qualificatif qui concerne souvent des objets. On parle d'objets, des vases sacrés, des lieux sacrés. C'est pas donc j'ai été gênée au début de ce texte par l'enfermement du sacré et puis l'ouverture sur le saint. Et je me suis demandé même si ce n'était pas les deux faces d'un même ensemble. Et puis, en relisant votre texte, oui, je pense que le sacré est plus terre-à-terre, finalement, que le saint. Il y a une dimension transcendantale dans ce qui est saint qu'il n'y a pas dans le sacré. Pour moi, enfin dans mes lectures et dans ce que j'ai pu rencontrer comme expression du sacré.
Oui.
Alors, madame. C'est peut-être très naïf, mais comme protestante, le sacré, ça me dit rien du tout, moi. Ça me parle pas du tout.
Alors Valère, la réforme.
Ah, la réforme, oui, mais pourquoi pas, oui. Oui, j'ai pris conscience, j'ai été placé à un carrefour, à un croisement, c'est curieux. Mon, mon, Mon père est d'une famille italienne, il est architecte, il a construit 30 églises. Il connaissait bien le cardinal de Lubac, la même enchaînée, il a fait 30 églises. Il allait, sa mère, ma grand-mère, allait à l'église absolument tous les jours. Ils étaient extrêmement catholiques. Ils étaient si catholiques qu'à l'époque, les catholiques ne devaient pas avoir de Bible à la maison. De sorte qu'il n'y avait pas de Bible dans la maison de mon père où on allait à la messe tous les jours. Ma mère est d'une famille de huguenots, réfugiés en Suisse. J'ai la Bible, encore la Bible de la famille qui sert aussi de livret de famille. On marque comme ça les événements. Il y a des choses tout à fait extraordinaires. À un moment, mon grand-père écrit sur ses enfants, c'est tout à fait protestant, « Gilbert et Jean sont de retour à Genève, ils travaillent. » C'est extraordinaire. Alors j'ai cette Bible, il y a des choses des familles plus anciennes. Du côté de ma mère aussi, il y a une descendance un peu curieuse. Il y a deux ancêtres qui ont été brûlés comme sorcières à Neuchâtel au XVIIIe siècle. Voilà. À l'époque où mes parents se sont mariés, l'Église catholique était impériale, c'est-à-dire il fallait que les enfants soient élevés catholiques. Donc j'étais catholique malgré moi, ou on ne m'avait pas demandé, donc j'étais au catéchisme, etc. Cependant, je crois que j'ai reçu quelque chose de mon grand-père, comme ça, quelque chose est passé, sans qu'on n'en parle jamais d'ailleurs, mais quelque chose est passé à tel point que j'ai un petit exemple d'un comportement que je trouve tout à fait protestant à l'âge de 8 ans. J'étais à Morzine, un endroit aussi où il y a eu des sorcières, des possessions, c'était dans les montagnes, c'était très primitif, etc. Il y a une histoire invraisemblable au 19e siècle. Des femmes des séances de Claude Solali, des femmes qui parlaient araméen, etc. Bon, j'étais en pension à Morzine, un endroit assez sévère. J'ai eu le prix de catéchisme à Morzine, bon, voilà, à 8 ans. Et le prêtre, il faut dire que les enfants ont l'instinct de quelque chose. Le prêtre nous a donné un cahier, il y avait des colonnes, il y avait une croix dessinée avec des colonnes, et il nous a dit, voilà, alors tout l'été, chaque fois que vous allez faire une bonne action, vous allez faire une croix. Ça m'a complètement écœuré. Ça m'a complètement écœuré. C'est quand même un réflexe protestant. Bon, alors voilà déjà deux variétés du christianisme, aussi avec des moments de heurts. Par exemple, le prêtre qui nous enseignait le catéchisme à Tonneau nous avait dit un jour, vous savez, il ne faut pas croire, tous les protestants ne sont pas mauvais. J'ai dit ça à ma mère qui est allée voir le prêtre, alors ça fait toute une histoire, etc. Donc c'était une époque quand même, une époque un peu... Ensuite, j'ai épousé Roséiane Goldstein. Roséiane Goldstein, sa famille venait de Pologne, juif polonais. Il faisait bien attention de ne pas sortir le Vendredi Saint parce qu'on leur jetait des cailloux. Voilà. Donc je suis charnellement lié au judaïsme. Je regrette qu'elle ne soit pas venue, mais c'est très important pour moi. C'est vrai, je par l'idée que c'est dans le fond la quatrième forme du christianisme. Il suffit d'ailleurs, parfois j'emploie le mot messianisme, parce que ça va aux juifs aussi, et parce que christianisme, c'est l'enfant messianique. Donc je ressens, et même je défends de façon, charnelle, la proximité, la fraternité des deux religions. Je pense que ça fabrique les mêmes consciences. Ça forme les... J'étais souvent dans la famille de ma femme, de ce goy à table. Ça fabrique les mêmes gens, etc. Voilà. Et puis, à tel point, d'ailleurs, ma femme était... Elle n'a pas eu d'éducation religieuse, une éducation communiste, etc. Mais son grand-père était... Bon. Mais quand même, le judaïsme se transmet aussi mystérieusement. Je n'ai pas besoin d'avoir fait sa bar mitzvah ou je ne sais plus comment on dit pour les faits. Quelque chose est là. Et à un certain moment, je suis allé à Jérusalem. Je n'étais pas là. Et j'ai mis un kippa, j'ai mis une prière dans le mur. J'ai dit, mon Dieu, faites que ma femme ne devienne pas bouddhiste. Parce que Je trouvais ça dommage. J'ai par ailleurs un fils bouddhiste. Enfin, vous êtes très compliqué. Et enfin, bon, la troisième chose aussi, que j'ai eu une attirance très forte pour Byzance, pour l'orthodoxie. Je suis allé au Mont Athos, je suis allé au Catherine du Sinaï. Je suis très, très en communication avec le monde orthodoxe aussi. Donc, je suis à un croisement. Je dis des choses. Depuis ce croisement, comme on dirait en 68, on dit d'où tu parles. Alors je parle du carrefour, judaïsme, etc. Protestants, catholiques, orthodoxes. Et je suis très, très sensible à tout ça. Maintenant, oui, cette idée que d'un Dieu touchant, quand même, que le Dieu incarné est touchant, et je trouve qu'il faut. Parce qu'on est dans un. Là, ça va bien, mais quand on est. En ville, avec une troupe de théâtre, il y a une sorte d'anti-christianisme terrible qui s'est répandu, et je trouve qu'il faudrait leur expliquer que le christianisme n'est pas la religion de la sortie de la religion, comme l'a dit Gaucher, mais je pense que c'est la religion où les athées peuvent redevenir religieux, puisque c'est une religion qui comprend l'amour de Dieu, quand même. Voilà. Donc il y a quelque chose, il faut aussi ouvrir, mais parfois j'emploie des formules comme ça très, très concrètes, où si on me demande est-ce que, alors je dis je ne suis pas un abstinent spirituel, par exemple, ou alors une formule que j'aime bien, que j'ai peu utilisée, mais qui est, c'est j'ai quelqu'un. Parce que dans le fond c'est ça, c'est ça qu'il faudrait, la dire comme ça, justement. Est-ce que vous avez quelqu'un? Ah ben non, j'ai personne. Avant, vous avez quelqu'un. Voilà. La relation, le Dieu personnel, enfin, voilà, à qui on parle, on peut demander, parler, se taire, chanter, mais il est personnel. C'est une grande singularité. Le Dieu des Juifs et le Dieu des chrétiens est personnel. On peut lui parler, vraiment. Alors, c'est pas il.
Il y a plusieurs demandes de parole. Gérard, Madame, Michel. Alors, Gérard, Michel.
Je veux dire, de toute manière, pour commencer mon admiration pour ce texte, vous êtes un texte qui est parti du genre, si vous pouvez. Votre. Excusez-moi, j'ai peut-être un début de rhume. Mais je vais essayer de parler plus fort. Je vais avancer une thèse un peu provocatrice par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire sur le fond de la question, sur la différence entre le sacré et la sainteté. Évidemment, je suis d'accord quant à l'apologétique chrétienne. Votre discours se tient dans les limites de cette apologétique doctrine. Mais quand même, la question de ce qu'est le judaïsme, le christianisme, puis peut-être l'islam aussi, les religions du livre, aussi cette rupture avec une autre humanité, avec une autre façon de comprendre les dieux, Dieu et l'homme. Et il y a quelque chose d'un peu brutal dans la Bible à l'égard du propre passé païen du judaïsme. De nos jours, il y a beaucoup de travaux, d'études, de faits qui sont importantes, quand même récentes, certaines par exemple par l'archéologue israélien. Un livre en anglais qui s'appelle The Bible on Earth, la Bible exhumée à travers les travaux sur l'archéologie de la Palestine, qui montre que le texte biblique est une construction liée à une espèce d'épopée nationale d'Israël, une conquête de terre, certes, pas seulement cela, mais enfin, il y a beaucoup de données sur le passé païen d'Israël, même du peuple hébreu, jusqu'au 8e siècle, etc., d'une histoire qui est très connue, avec des stades, des phases, etc. Cette rupture du judaïsme avec son propre paganisme, par exemple avec une divinité féminine qui existait, qu'on a trouvé dans l'archéologie, qui serait Asherah. Le dédoublement, la dénégation de toutes les divinités, de la fécondité, de la fertilité, la destruction des idoles dans la fondation du judaïsme, mais aussi lié à un acte politique de construction du peuple hébreu, qui était un petit peuple pris entre la Mésopotamie, l'Égypte, etc. Donc, tout un destin très extraordinaire qu'il faut quand même connaître, parce que ce qui fonde notre tradition quant au judaïsme et au christianisme est lié à cette grande aventure spirituelle, mais qui suppose aussi le refoulement d'une autre religion, de la religion des autres, c'est-à-dire du polythéisme. Et ce polythéisme est une religion en un sens aussi très admirable. Je pense par exemple à l'Égypte ancienne, dont, pas pour rien, il y a l'exode hors de l'Égypte qui est fondatrice d'Israël. Ce passé ne peut pas être simplement nié. Donc je veux dire par là que une des tâches que nous avons à faire, c'est aussi non pas simplement d'aller dans le sens de la lecture judaïque et chrétienne de ce passé, mais aussi de comprendre le lien, le travail d'interprétation qui a été effectué. Donc nous avons des traces, des éléments, je pense aussi à des livres comme ceux de Jean Bottero, par exemple, La naissance de Dieu dans les années 80, puis dans les années 2013, il y a un compatriote à vous, qui est professeur au Collège de France, qui s'appelle Thomas Romer. Il a écrit un livre qui s'appelle
L'invention de Dieu,
qui est justement, qui prend appui sur un certain nombre de documents comme cela. Donc il y a un passé qu'on ne peut pas simplement ignorer. Voilà.
Valère ?
Il y a aussi, comme moi, j'étais, je ne sais pas, je ne suis pas du tout historien, etc. Mais il y a aussi le passé proche d'Israël, qui est quand même, je ne sais pas comment dire, je ne trouve pas le mot. Moi, je suis né l'année de la rafle du Veldiv. Voilà. Et quand j'étais enfant, j'ai questionné beaucoup mes parents, comment c'est possible, comment est-ce que Pie XII a laissé faire. Enfin, je ne sais pas, j'ai enfant à 14 ans, donc... Pour moi, l'histoire d'Israël, c'est d'abord cette récente, très récente Shoah, l'extermination des Juifs, et aussi l'étonnement, c'est devant la persistance de la haine d'Israël. En tout cas, dans beaucoup de milieux. Mais vous avez raison de dire qu'il faut regarder l'histoire, si vous voulez, mais il y a un beau livre de Losky qui s'appelle Antisémitisme et mystère d'Israël, que j'avais lu, qui m'avait beaucoup intéressé. C'est très curieux. Cette détestation permanente. Et on a fait un film avec Aubin, on a fait un film où je devais composer un film. Et j'ai demandé à Laïla Fischer de venir chanter des chansons en yiddish lituanien, chante d'une façon extraordinaire. Elle est venue, elle a chanté une chanson qui est déchirante, enfin, c'était très beau. Puis une fois que ça n'a pas été filmé, et une fois qu'elle a fini de chanter, à la fin, elle est venue vers moi et me dit « Et pourtant, on ne nous aime pas. » Et autre chose, voilà, ça, pour moi, l'histoire d'Israël, c'est ça, c'est l'histoire récente. D'autres choses, j'étais en pension en Suisse, à Cernia, près de Les Indes, j'étais un peu tuba, je ne sais pas quoi, bon, voilà. Et j'étais avec Hermann Schonker, dans la chambre d'Hermann Schonker, qui était un juif d'Anvers. Et un jour, je lui demande « Et toi, de quelle religion es-tu » Il m'a dit « Si je te le dis, tu ne m'aimeras plus. »
Voilà pour moi l'histoire d'Israël directe avec laquelle je suis en contact. L'histoire de Kagami, je sais pas, je vais lire des livres, mais je n'aurai pas ce contact charnel.
Mais si je peux juste. Madame, attends, Gérard, justement, Gérard, excuse-moi parce qu'il y a plusieurs tout le monde. Madame ?
Je voudrais d'abord vous dire à quel point j'ai été touchée par votre texte, bien avant évidemment de connaître vos multiples attaches religieuses. Charnel, je suis touchée en tant que lectrice simplement par votre langue, le souffle que je sens dans ce texte, en hébreu, la respiration c'est Neshima et l'âme c'est Neshama, c'est la même racine, vous voyez. Je suis touchée en tant que juive, je suis touchée en tant que suisse aussi, donc voilà, c'est fait comme ça. Alors, je voulais juste un petit point qui m'a un peu étonnée, étant donné cette proximité que je sentais chez vous. Vous semblez avoir privilégié dans la révélation je suis qui je suis, sum qui sum, en reprenant au fond la traduction latine. Or, si on s'en réfère à l'hébreu, vous l'avez indiqué, vous dites où je serai, qui je serai. Mais ayez acheré, c'est même pas qui, c'est ce que. Je serai ce que, c'est encore plus vague. Et justement, si on traduit comme ça, c'est plus facile de dire, bah, effectivement, c'est pas l'être avec un grand E, etc.
Michel ?
Alors, je te remercie d'abord d'entendre nos remarques et de nous faire un effort pour nous donner la parole, mais je ne suis jamais contente, parce qu'aujourd'hui, je n'ai rien à dire dans la mesure où ça ne s'intéresse pas tellement à ma raison, mais à ma sensibilité. Et je vais reprendre le mot de madame, c'est un texte qui me touche, qui me bouleverse. Et donc, parler sur ces émotions, ça devient très difficile. Merci, mais ce n'était pas pour ça. Bon, j'ajoute une chose.
J'ai une remarque à faire pourtant, à propos du psaume
139. Je reprends ce que vous disiez. Donc, je suis née protestante, d'une mère protestante, ma mère était catholique, un peu comme vous, mais comme ma mère n'a pas voulu se marier à l'église parce qu'on l'obligeait à dire le catholicisme et qu'elle ne connaît pas, donc ils sont mariés au temple et je suis née protestante, de génération, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré les frères dominicains. Et je trouvais que c'était des bons prêcheurs et qu'ils m'apportaient des choses. Et à un moment donné, donc, il a fallu que je demande l'hospitalité eucharistique, passons sur les détails, donc j'ai dû expliquer pourquoi je voulais continuer à fréquenter les dominicains tout en restant protestante. Et j'ai dit, mais dans le catholicisme, je trouve le sens du sacré et je récupère la capacité. L'usage d'une tradition. C'est-à-dire que je ne me trouve pas toute seule avec ma Bible, quelquefois un peu hermétique, et là je peux aller piocher dans les pères de l'Église. Et comme je suis scrupuleuse, avant de décrire ça, d'expliquer pourquoi je voulais continuer à fréquenter les dominicains, je vais voir le pasteur. Le pasteur m'a dit, ma pauvre Michel, t'as rien compris. Le sacré, mais tout est sacré. C'est toute la vie qui est sainte. Et dans votre texte, je sens que c'est finalement une éloge de la sainteté, c'est toute la vie, c'est le souffle, c'est le rythme, c'est le mouvement, c'est le futur, c'est le devenir, c'est ce Dieu qui sera, qui nous accompagne. Et je trouve que là, je comprends ce que disait le pasteur en disant qu'il ne faut pas parler de sacré, mais toute la vie est sainte et donc tout est sacré.
Monsieur, oui, je vous en prie.
Oui, je vais dire, c'est tellement complexe. Je dis quand même une question ou deux. Ah, oui. Non, vous avez, ça m'a beaucoup plu d'entendre la partie juive, ce que vous avez dit. Je suis d'origine protestante, comme on dit. Quand vous avez dit, le Messie, c'est la parole, ça c'est tout à fait intéressant. Mais il y a une autre phrase que vous avez dite. La fin annoncée de la séparation. Si je comprends bien les contes juifs, la séparation, elle est infinie. Elle a à voir avec ce qu'on appelle, avec la loi, mais la loi du temps. Vous voyez ? Voilà. Alors, mais ça, ce sont des questions qu'on traite très peu dans le christianisme. Ça, c'est les christianismes qui maintenant sont. Voilà ce que je voulais simplement dire, parce qu'on ne peut pas aller plus loin.
Sur le Messie, c'est la parole. Alors,
ça me plaît, ça.
Il faut que je reparle de Morzine. Morzine à l'époque, c'était plus tard, j'étais adulte, et je vais à une messe de minuit à Morzine. Il y a 15 ans, je crois. Et le prêtre lit la Bible et il dit au commencement était le Verbe. Oh, ça, c'est de la philosophie grecque. Allons voir le petit Jésus. Et j'étais obsédé par cette phrase, et je peux dire, j'ai pensé continuellement au mot logos, au davar, etc. Pendant 2-3 années, j'ai creusé cette. Je trouve qu'on en parle, par exemple, dans les églises, on parle. Je trouve qu'il y a quand même une tendance que j'appelle jésuiste, c'est-à-dire le Jésus historique. Qui est un peu comme, qui vient comme espèce de Mahomet, dans le fond, enfin, un prophète, un homme doué, etc. Mais on perd que l'ampleur extraordinaire de la christologie, c'est lui par qui tout a été fait, c'est d'avoir Elohim, c'est la parole de Dieu. On perd un peu ça et on se rattache sur le réel historique. Donc on perd le grand souffle aussi de l'alpha et l'oméga, enfin, le début et la fin, voilà, le cosmique christianisme peut, en tout cas dans les sermons catholiques, ça se perd beaucoup. Alors ce qui se perd beaucoup aussi, je trouve, c'est ce qui fait beaucoup de mal, ce sont les micros. Parce que je pense qu'on pense autre chose avec des micros et sans micros. Et que je vu souvent des prêches extraordinaires à Saint-Julien-le-Pauvre, il n'y avait aucune sonorisation, il y avait des types un peu mal habillés qui avaient l'air de sortir des ermites sortis du désert, qui se balançaient d'un côté et d'autre, comme ça, puis tout d'un coup ça partait, c'était extraordinaire, c'était la voix dans l'espace. Et les micros écrasent l'adversaire, les micros, c'est bien qu'on vient des télévangélistes, je ne sais pas, je fais, et ça aussi, je crois que tu fais la guerre des tricots dans le théâtre, mais ça, des choses très matérielles contre la change de pensée. Donc, oui, parce que regardez comme le dogme chrétien est quand même une folie. Enfin, c'est une folie, si vous allez dire dans la rue, alors voilà, il est ressuscité. C'est Dieu, c'est l'incarnation. L'incarnation est une très belle phrase de saint Augustin, l'incarnation qui déplaît tant aux orgueilleux. C'est très beau. C'est insupportable pour pas mal de nos compatriotes. L'incarnation est aussi parmi les croyants. Il y a des croyants qui ne supportent pas, d'autres gens qui ne supportent pas. C'est la séparation. Donc tout est dans le christianisme. Dialogue, partage, échange, jusqu'à manger le corps. C'est incroyable. C'est une religion des sens, une religion sensuelle, un lieu touchant. En fait, voilà. Enfin, c'est tout ça que ce texte, de façon un peu comme une rumination, une obsession, ce texte qui tourne un peu en rond, parce qu'il y a d'autres textes où j'ai un peu creusé du côté de l'ayer à chérier un peu plus, etc. J'ai fait d'autres textes sur d'autres points, et je voudrais en faire d'autres aussi, puis changer un peu le point de vue. Mais c'est vrai que c'est un peu une rumination aussi, ce texte.
Je m'efforce de faire circuler, c'est pour ça que je privilégie les personnes qui n'ont pas encore parlé. Alors, Charles,
justement, rester perplexe sur la question de l'être, parce que la première rencontre, il y avait le sujet qui m'a présenté, c'est l'être, et là, du coup, je vois que dans l'expression, dit l'homme que je ne sais pas, je suis, mais finalement, c'est pas l'être.
Oui, alors là, j'ai dit. Dans un spectacle qu'on a joué avec l'autre qui s'appelle Le Pressant, il y avait un acteur qui construisait une espèce d'immense pyramide avec des cartons, il les mettait de plus en plus haut, et puis une fois qu'il a fait, c'est pour l'instant on jouait une scène, il construisait sa pyramide de cartons, et après, à la fin, il mettait une pancarte lettre, et il le mettait aussi en lettre gothique. Et puis, il reculait et il prenait des cailloux et il faisait tomber l'idole de l'air. Alors, moi, j'ai une petite. Je ne suis pas philosophe comme toi, je n'ai pas de conception philosophique, mais j'ai une petite idée sur Heidegger. J'ai connu. Et que Heidegger, pourquoi est-ce que les Français sont tellement snobés, emballés par Heidegger, les Allemands le sont moins, les Italiens pas trop? Parce que les Français sont coupés de la culture médiévale et de la culture biblique. Et Heidegger, sa force, il l'apprend dans les Pères de l'Église, c'est là qu'il a fait sa tête, etc. Et si on lit Heidegger, ou tout d'un coup, après on lit Maître Eckhart, ou Boès, ou Saint-Jean Chrysostome, je ne sais pas quoi, on voit tout de suite vers la vie qu'il y a dans les Pères de l'Église, et Heidegger, ça semble un sous-produit. Voilà. Alors, pour moi, c'est un sous-produit de la théologie. Et je trouvais que les Français étaient fascinés par lui parce qu'ils ont plus contact avec le Moyen-Âge qu'ont quand même les Italiens, par Dante, etc. Mais en France, on a une amnésie extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai appris au collège de Codon? Qu'entre Aristote et Descartes, nuit noire du Moyen-Âge. Hop. Voilà. Et je l'ai appris au début à la Sorbonne. C'est en train de changer avec Libera et d'autres gens, etc. Mais une méconnaissance totale de cette période extraordinaire pour l'esprit, et je trouve que les scientifiques, que tout le monde devrait lire les textes médiévaux, parce que c'est extraordinaire. À un moment, je voulais lire tous les textes écrits sur la Trinité jusqu'à Saint-Augustin. J'ai lu Détermitate intégralement, c'est un bon bouquin, mais je voulais lire avant hier de Poitiers, Marius Victorinus, j'ai un peu avancé. Mais comme ils essayent de cerner l'impondérable, l'insensible, c'est comme les physiciens du CERN, à Genève, il faut parler de choses qui sont hors de la mécanique, des choses mécaniques, là, c'est un exercice de l'esprit extraordinaire, et j'attribue aussi la force de la pensée européenne, c'est, j'attribue cette force aussi à la à la théologie, quand même, qui a exercé l'intelligence de façon extraordinaire, qui pensait saisir les Napoléons, et aussi à la rivalité entre juifs et chrétiens. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Talmud, c'est nous. Comment on s'est fait voler notre baraque, ils sont fait voler le Messie, enfin ils sont fait voler. Alors il y a eu des périodes violentes et terribles, bien sûr, mais il y a aussi une émulation parce qu'ils se lisaient. Abou Lafia lisait Escotérigène, enfin je ne sais pas, je ne sais pas exactement comme ça, mais grosso modo, il y a eu une effervescence. Cette effervescence entre les deux religions rivales, voilà. Donc je pense que ça a créé quelque chose d'extraordinaire. Et alors, donc un jour, je suis tombé sur le livre d'Étienne Gilson, La philosophie médiévale. Je l'ai lu intégralement, et Caverne d'Ali Baba. Caverne d'Ali Baba extraordinaire. J'allais à la procure sans arrêt acheter des paires de Lévis, que je disais ou pas, mais je les achetais. Et à un moment, j'allais à la procure comme on entre dans un sex shop. J'étais complètement dans un état second. Et à quel moment, j'ai dit, il faut que je me fasse interdire de procure. Je me interdire de casino. J'ai rangé ces jours-ci, j'ai une bibliothèque, et moi j'en ai lu quelques-uns à fond, d'autres pas du tout, mais c'est presque maladie. Non, mais surtout que, je sais pas, moi je fais aussi des comparaisons, par exemple, cette figure incroyable de la Trinité, parce qu'on lit le Détritatis à l'Église, et après il dit, pardonne-moi mon Dieu, j'ai dit des bêtises, finalement je ne sais rien, je n'ai que balbutier, je suis une fois, parce qu'il cherche, le discours, c'est vraiment incompréhensible dans le fond, de la Trinité. Eh bien, ça correspond au nom imprononçable, le YHVH, c'est une zone, un carré vide, une zone de silence. On ne prononce pas ça, ou la Trinité comme une figure pour justement lutter contre l'idolâtrie, une figure mouvante. C'est vrai que c'est une figure en mouvement, c'est très curieux. Enfin, c'est ce trésor avec lequel on a un peu. Ces livres qu'on a plus beaucoup, qui sont extraordinaires. Bon, et puis, oui, après tout, elle a rapport de ce que je suis, c'est mon coming out, là. J'étais en quatrième, j'étais en troisième, et je suis allé à la bibliothèque de Tonon, j'ai demandé, est-ce que vous avez une institution chrétienne de Jean Calvin? Oh, bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'avais aussi, je pense que le fait d'avoir été comme ça, séparé de quelque chose, j'ai ressenti ça, et ça a certainement joué dans l'intérêt que je porte toujours de façon de bonne manière pour tout ça. Oui, et surtout rapprocher que les gens n'ayez pas peur, que les gens sachent que ce sont des choses très simples, comme la prière, la respiration, j'ai quelqu'un. Des choses toutes simples aussi, pour essayer de décoincer un peu quelque chose qui est terriblement coincé.
Une citation de trois lignes, de Valère. Face à l'infigurable, l'incompréhensible, la géométrie est l'apostrophe. La renversante, l'analgébrique, l'indéchiffré, l'insaisissable et la touchante trinité.
Voilà, touchant, oui, c'est ça, que l'idée qu'il y a un salut par l'essence. Alors c'est pour ça aussi que je suis évidemment assez attiré par la religion orthodoxe, où il n'y a quand même pas le mépris du corps, et ils ne sont pas dualistes, ils sont monistes. Et à un moment, dans une pièce, justement, j'avais Pascal Mauvert se couchait sous une planche pendant très longtemps, et tout d'un coup il se levait, il disait, à la fin, non seulement la chair, mais toute la matière sera sauvée. J'ai dit à ma femme, communiste, figure en bas, etc., j'ai dit ça, c'était non seulement la chair, mais à la fin, la matière même sera soumise. J'ai dit ça, les orthodoxes seuls comprennent. Donc c'était ce non-mépris du corps qu'il y a chez les orthodoxes. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose que les icônes, la magnifique liturgie, pas honte de la beauté, quoi. Tandis que dans les églises catholiques, je ne sais pas, il y a des beaux vitraux, mais on vient les. Et recouvrir d'horribles découpages par les enfants du catéchisme. Il n'y a pas ce que
bien. Autre chose? Oui.
Vous avez évoqué donc le passage du buisson ardent. Puis nous sommes questionnés sur la traduction je suis qui je suis, je serai qui je serai. Je crois qu'il est important aussi de resituer ce questionnement. Ce questionnement, il se situe au cœur d'un envoi. Hein. Dieu demande, enfin Dieu, l'imprononçable, celui qui se cache, celui qui ne peut pas dire qui il est, en fait, dit quand même quelque chose de très clair, va dire à Pharaon que je vais délivrer mon peuple. Et donc cette question, c'est, je trouve qu'il y a, comment dire, nous appelle à la responsabilité, mais en refusant tout socle identitaire, il s'agit de se mettre en route pour délivrer. Ça rejoint le problème de la sainteté. La sainteté, contrairement au sacré, bon, le sacré, c'est quelque chose qu'on peut s'attribuer, c'est un attribut, tandis que la sainteté, c'est un service. On n'est jamais saint pour soi-même, on est toujours saint pour les autres, pour témoigner de quelque chose. Et je trouve que c'est là que se fonde, dans ce récit du buisson ardent, se fonde la sainteté contre la sacralité. Et vous l'avez très bien dit, Moïse enlève ses chaussures, ses sandales, pour au fond, pour atterrir. Il était coincé entre deux identités, hein. Ses ancêtres dont il avait vaguement entendu parler, la cour du Pharaon, et il était privé d'identité, et là il réatterrit sur le sol, il touche le sol, et il peut alors aller vraiment sans peur, aller délivrer, et il a envie d'une réponse, il a envie de savoir qui l'envoie. Et en fait, il n'a pas vraiment de réponse, il a une espèce de subterfuge, mais il y va quand même. Et c'est la prise, l'appel à la responsabilité, à l'autonomie de l'homme qui va au service des autres. Voilà, enfin, je sais.
Moi, si vous permettez, je voudrais dire un mot sur puisque, pourquoi je, de mon côté, de mon point de vue, mon histoire personnelle, je ne cesse de m'enfoncer dans ces textes. Il y a, je ne sais plus si c'est cette nuit ou la nuit précédente, parce que nous ressemblons en confidence, dans une insomnie si fréquente, entre 2h et 4h du matin, insomnie qui paraît interminable, hein, qui n'a pas de fin, j'étais avec les textes, Valère, où tu parles de ce que tu évoques ici à la fin, c'est-à-dire Dieu et le vide, cette assonance ou ce jeu graphique que tu ne cesses de, sur lequel tu reviens souvent, sur cette dimension du vide par laquelle quelque chose de ce qui s'appelle, ce qui se nomme, ce qu'on appelle, je trouve aussi là-dessus beaucoup, Dieu m'appelle, se produit. Je veux dire, dans l'œuvre théâtrale de Valère et la réflexion de Valère sur le théâtre, la question du vide a une importance, c'est le cas de le dire, absolument centrale. C'est-à-dire que tout ce qui se produit sur la scène et tout ce qui se produit dans le corps, et en particulier dans le corps de ces animaux étranges que sont les acteurs, ce qui se produit dans le corps se produit autour d'un vide. Souvent, tu l'as creusé dans des textes extraordinaires, et en particulier ce texte qui est une référence majeure maintenant pour beaucoup d'entre nous, qui est ce texte qui s'appelle « Pour lui de Funès ». Nous sommes certains, nous cessons de relire, hein, depuis très longtemps, parce qu'il y a une trentaine d'années, franchement, il me semble, tu as creusé cette idée du vide central autour duquel se constitue le corps de l'acteur, cette colonne vide, autour de laquelle se produit quelque chose comme un corps, une animalité étrange qui est celle de l'acteur. Alors, cette nuit, comme ça, moi j'en étais, cette nuit ou la nuit précédente, à tomber dans ce vide, quoi. Et en particulier ce vide que tu fais jouer en résonance avec le mot Dieu et avec la façon dont il s'écrit. Et je me disais, sincèrement, que c'est une des choses qui, pour moi, dans la situation qui se trouve être la mienne, était la plus intensément productive, quoi, de spiritualité. Non pas que je veuille me débarrasser du divin sous prétexte qu'il est vide, mais que c'est une des... Je sais pas, j'avais l'impression de tomber dedans, presque littéralement, tu vois, de m'y ni glisser, ni renverser, que ça c'était quelque chose qui se produisait de très fort. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça simplement pour dire que l'écriture de Valère me semble témoigner de ce fait qu'à un moment donné, un écrivain, tu n'aimes pas te définir comme poète, tu n'aimes pas ce mot pour te l'appliquer, même si beaucoup te l'appliquent, hein, beaucoup de gens appliquent à ton écriture la qualification, la dénomination de poésie. Un écrivain, disons un poète, entre mille guillemets, un travailleur de la langue, un artiste, un ouvrier du drame, un homme qui fabrique comme ça ces choses-là dans le langage, dans la parole, est un de ceux qui, aujourd'hui, œuvre à cette reformulation absolument radicale, absolument d'ensemble, dont je pense que nous avons intensément besoin. C'est-à-dire, nous avons intensément besoin de repenser les données, les réalités. Alors, ça ne veut pas dire avec une table rase par rapport à ce qui a été produit avant, qui est un de ceux qui sont les plus attentifs à une espèce d'histoire, de texte ancien, comme je viens de dire, très ancien ou récemment ancien. Voilà, bien sûr, il ne s'agit pas du tout de les effacer ou de les annuler. Mais me semble qu'il y a besoin d'une réinvention langagière de ces affaires qui nous occupent. Et tu travailles, tu œuvres de façon incroyablement puissante, quoi, productive. Il me semble que ce qui se produit, ce qui se cherche dans des maisons comme celle-ci, par exemple comme dans celle-ci, nous avons besoin de ça à côté du travail des théologiens, des ouvriers du conseil de la théologie, à côté du travail intense et du service de la prédication permanente. Il me semble que de la position où tu es, c'est-à-dire la position de quelqu'un qui œuvre à la théologie, mais à partir de ta pratique d'écrivain, d'artiste, tu relances les dés, quoi. Tu changes complètement certaines donnes, et que c'est pour nous, ça me paraît essentiel. Au début, c'est très déroutant, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Des fois, on a l'impression que ce sont des jeux de mots un peu gratuits. On se dit, ouais, d'accord, pourquoi ça? Tout le contraire, tu en joues avec ton incroyable humour, voilà. Mais il me semble que ça nous dit quelque chose de plus... dont nous avons besoin, quelle que soit notre appartenance professionnelle. En tout cas, comme ça, c'est moi comme ça que je te consomme.
Mais c'est vrai que Dieu et vie, ça peut sembler provocant, finalement. Et moi, ça me rappelle Maître Eckhart, qui fait un sermon sur la conversion de Paul, en fait. Et Paul tombe à terre, et le texte donc, des Actes des Apôtres, ou de la première lettre aux Corinthiens, je pense que c'est plutôt dans l'Acte des Actes des Apôtres, que c'est raconté trois fois, cet épisode. Mais le texte dit, Paul tombait à terre, et il lève les yeux et il ne vit rien. Et Maître Eckhart ajoute, et ce rien était Dieu. Et alors Maître Eckhart a eu beaucoup d'ennuis en fait pour ça, jusqu'à ce qu'il arrive à faire comprendre qu'effectivement c'était pas du tout de l'athéisme, au contraire, c'était pour aller au-delà justement, c'est-à-dire ces conceptions de Dieu n'étaient rien par rapport à ce Dieu qui touche finalement. Et ça désacralise nos dogmes sacrés, pour aller vers cette vie. Et ça, je crois qu'effectivement, votre travail encourage vraiment ça, stimule, parce qu'on sent que c'est habité d'un souffle, et qu'en même temps, ça ose ce genre de paradoxe, finalement, et ça, c'est très vivifiant, très ressuscitant.
Je vois très bien le passage de Maître Eckhart, je voulais l'amener d'ailleurs. Bon. Mais il y a aussi, c'est lorsque Paul ne vit rien, il vit Dieu.
Et ce rien était Dieu.
Oui, c'est extraordinaire. Ouais. Et alors, il y a un autre passage où, malheureusement, je vais raconter n'importe comment. Mais Eckhart dit Moïse demande son nom, il dit je suis qui je suis. Alors, Maître Eckhart dit lorsqu'on rencontre un voyageur la nuit et qu'on lui demande d'où viens-tu, mais il dit je suis qui je suis. Il ne veut pas répondre. Là, c'est vrai, il développe ça, c'est. J'ai mis ce passage parce que j'ai fait un texte qui regroupe 8 ou 900 ou 500, je ne sais plus, définitions de Dieu, de Maître Eckhart, de Hubert Félix Thiéfaine, Brassens, enfin tout le monde, des œuvres totales. Mais je voulais dire quand même, de toutes ces citations, la plus belle et les plus bonnes de faire, c'est « Seul un Dieu faible peut porter secours ». C'est tout à fait extraordinaire et c'est tout à fait pour aujourd'hui. Et alors, curieusement, c'est mieux en français qu'en allemand. Parce qu'après, j'ai eu la version allemande qui est moins bien. « Seul un Dieu faible peut porter secours », c'est extraordinaire.
Bien, comme toujours, nous sommes à peu près à l'heure, nous essayons de nous y tenir. Merci beaucoup de votre présence, chaleureuse. Merci infiniment, Valère, d'être venu.